Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur les 3-8 Radio Grenouille, le Ravi, la Grande Tchatche. N'oubliez pas le Ravi, votre régional mensuel, c'est tous les premiers vendredis du mois, la Grande Tchatche, tous les quatrièmes samedis du mois. La Grande Tchatche entre les deux tours des élections cantonales. Aujourd'hui, pour parler de politique, on va faire un petit peu la radioscopie de la politique du département. Un député communiste, Michel Vaxès, bonjour.
Bonjour.
Avec moi, pour vous interroger, Michel Guéraud. Et une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité. Et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Non, vous ne rêvez pas. Notre invité est un député communiste. Je répète, député et communiste. Grâce à vous, Michel Vaxès, la Grande Tchatche fait mieux que le WWF, mieux que la Fondation Nicolas Hulot et Brigitte Bardot réunies. Nous volons au secours d'une espèce en voie de disparition. Nous contribuons à la préservation de la biodiversité et de la faune dans la région. Car des députés communistes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y en a qu'un seul, Michel Vaxès. Car des députés communistes dans le sud de la France, il n'y en a qu'un seul, Michel Vaxès. Car des députés communistes dans toute la France, il n'y en a, n'exagérons pas, il y en a désormais 13 sur 577. Phénomène curieux, moins vous êtes nombreux, plus vous êtes indisciplinés. Depuis les dernières législatives, 4 députés ont quitté le parti à la recherche de pâturages plus verts ou plus rouges, selon. Heureusement, il y a les irréductibles comme vous. Il est vrai que vous vous êtes épanoui dans un biotope exceptionnel. Port de Bouc, commune industrielle et maritime, marquée par la fermeture des chantiers navals et le développement, puis la crise de la sidérurgie. Jeune trentenaire, vous entrez au conseil municipal en 71 avant de devenir adjoint en 83, puis maire en 90. Vous avez alors 50 ans. Vous êtes ensuite réélu à 2 reprises. Port de Bouc, c'est quelque chose. Aux dernières municipales, Patricia Fernandez, à laquelle vous avez cédé votre fauteuil en 2005 pour être députée à plein temps, elle a été élue avec 71% et le malheureux candidat UMP n'a fait que 9%. Incroyable. Dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, vous affichez vous aussi des scores confortables, 57% en 97, 56,5% je crois en 2002, 56% en 2007, une stabilité remarquable. D'où vient votre calme, votre constance au moment même où le PC semble parfois avoir perdu sa boussole? Est-ce un effet de votre profession, conseiller d'orientation, psychologue? Si l'avenir du Parti communiste au sein du Front de Gauche fait l'objet de nombreuses interrogations, le vôtre à l'Assemblée nationale semble assuré ad aeternam. Le nouveau charcutage de la carte électorale avec pour objectif d'ennuyer Michel Vauzelle du côté d'Arles a eu pour effet collatéral de renforcer le poids du PC dans la 13e. Alors, en 2012, n'hésitez pas, faites un geste pour le patrimoine mondial de l'humanité. Présentez-vous pour un 4e tour de piste. Le sort de l'homo communistus à l'Assemblée est entre vos mains.
Michel Vaxès, un commentaire à ce portrait?
Non, amusant.
Vous sentez une espèce en voie de disparition?
Amusant, mais léger, justement. Et ce qui me mobilise, en tout cas dans mes réflexions, c'est rarement la légèreté, même si je l'apprécie parce qu'elle détend. Et d'avoir entendu ce qui vient d'être dit me détend. En même temps, je redoute que ce propos soit pris au premier degré, auquel cas ça signifierait que votre auditoire s'intéresserait pas aux questions de fond, ce que je ne crois pas, mais aux questions de fond, nous allons y venir.
Michel Guéraud, vous avez compris que l'heure est grave, il n'y a question que des questions graves. Et justement, l'actualité se prête à cette gravité, on l'a dit en introduction, c'est les cantonales, avec une vague pas totalement inconnue dans le département et encore moins à Marseille, c'est celle du Front National. Michel Vaxès, comment vous expliquez?
Moi, je pense d'une part que malheureusement, le fond des enjeux politiques nationaux et même locaux sont squeezés par les médias, et les plus gros médias, ceux qui ont une audience nationale. Il n'y a pas eu de campagne électorale. Les enjeux d'une consultation populaire devrait être, de mon point de vue, mieux affirmée et dans les médias et dans les débats politiques. Malheureusement, certains électeurs ont découvert l'existence d'une consultation électorale la veille de sa tenue, et quelquefois le lendemain de sa tenue. Donc, une première raison, c'est que la société française, malheureusement, en tout cas ceux qui s'expriment en son nom, qui ne la représentent pas forcément, ne participe pas au niveau où il le faudrait à l'échange politique sur le fond des questions qui nous sont posées. La deuxième raison, c'est ce comportement délégataire qu'on constate depuis des années, d'ailleurs, dans le système institutionnel français, qui conduit et que, malheureusement, là encore, les médias encouragent, qui conduit à rechercher le casting le meilleur. Or, rechercher le casting le meilleur conduit forcément les citoyens à essayer l'un, puis à essayer l'autre, puis un troisième, et quand ils sont insatisfaits de l'un, de l'autre et du troisième, ils en recherchent un quatrième. Cette délégation de pouvoir est suicidaire pour le débat politique fondamentale dans notre pays. Or, que s'est-il passé ? L'échec relatif de la gauche au pouvoir de 97 à 2001, auquel a succédé la droite au pouvoir, et son échec plus net, celui-là, conduisent un certain nombre à rechercher d'autres voies. Malheureusement, ils se trompent, et c'est la démonstration de cette erreur-là qu'il nous faut faire dans les échanges qui sont des échanges sur le fond politique.
Michel
Quelles
Béraud
sont les propositions que fait Marine Le Pen en matière d'alternance au système économique qui nous conduit dans cette difficulté? Elle n'en fait pas. Elle joue encore les castings, elle joue l'image un peu moins affirmée que celle de son père, mais ils sont sur les mêmes logiques libérales.
En même temps, Michel Baxès, on dit qu'à chaque élection, sa vérité. Est-ce que le score du Front National à des élections cantonales a une réelle importance ? Est-ce qu'il traduit une continuité qui va transparaître aux législatives, par exemple, ou aux présidentielles ?
Écoutez, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il m'inquiète. Il m'inquiète non pas... il m'inquiète sur le fond. Il m'inquiète parce que ça signifie que les électrices et les électeurs, les citoyennes et les citoyens de ce pays, recherchent des hommes ou des femmes ou des formations providentielles. Eh bien, ils n'en trouveront pas, parce que elle n'existe pas, parce que ce qui me paraît fondamental, ce qui me paraît essentiel, c'est le rassemblement des peuples pour que soit apportée réponse aux questions qu'ils se posent. Le changement ne viendra pas d'en haut, quel que soit le casting du haut en termes d'individus, personnalisation de la politique ou en termes de formation politique.
Michel Baxès, pourquoi le Parti communiste se présente sous l'étiquette Front de gauche depuis quelque temps ? Ça, d'ailleurs, ça semble plutôt lui réussir, relativement. Il y a donc deux fronts, il y a un front de gauche et il y a un front national. Pourquoi le front national mobilise plus, beaucoup plus les électeurs, en touchant y compris un électorat populaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le front de gauche n'arrive pas à être mieux entendu?
Le combat du front de gauche est un combat bien plus essentiel pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure.
Mais ça ne passe pas comme...
Oui, mais attendez, c'est toujours plus difficile de faire la démonstration du théorème de Pythagore ou de l'addition de 2 et 2. Toujours plus difficile. Et quand on rentre dans la complexité, c'est toujours plus difficile d'éclairer cette complexité, de la faire comprendre, que de faire comprendre des balivernes, des choses extrêmement simplistes. Voilà. Le débat est là. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de faire entendre la nécessité d'une révolution au sens non pas violent du terme, mais au sens de renversement des logiques, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre que les logiques du capitalisme aujourd'hui dans notre pays et partout ailleurs dans le monde sont des logiques qui conduisent les peuples au mur. C'est très difficile, et c'est très difficile de montrer que c'est une inversion de ces logiques-là qui permettra au peuple, enfin, de pouvoir continuer de progresser dans la réponse à leurs besoins d'épanouissement.
En même temps, Michel Vaxès, quand on se met à la place de l'électeur lambda, quelle drôle de campagne, c'est le moins que l'on puisse dire. Le PC que vous représentez, le PC se présente sous la bannière Front de Gauche, l'UMP sous le logo comme à Nice où c'est l'étiquette Nice Ensemble, y compris dans les Bouches-du-Rhône où le PS se présente sa liste qui s'appelle 13 en action. Alors, il y a une espèce d'ambiguïté, on ne sait pas vraiment si on vote pour le Parti Socialiste, si on vote pour le Parti Communiste, ou si on vote pour l'UMP, c'est un peu...
Mais le drame, c'est précisément, il est contenu dans l'expression de votre questionnement. Est-ce qu'on vote pour le Parti Communiste, pour le Parti Socialiste, pour l'UMP, pour une autre formation politique? Moi, je souhaiterais un jour que l'on arrive à voter, et c'est notre combat, en tout cas c'est le mien, qu'on arrive à voter sur des contenus. Est-ce qu'on vote pour une école de la République qui permette, qui joue l'ascenseur social pour toutes les catégories sociales? Est-ce qu'on vote pour des services publics, un hôpital public qui réponde aux besoins de soins de notre population et défende la santé publique? Est-ce qu'on vote pour un développement équilibré de l'économie en lien avec la préservation de la nature? Est-ce qu'on vote sur des contenus? Non. On vote pour des représentations. Et tant qu'on sera dans cette logique-là, on aura des difficultés à se faire, à voir la société avancer dans le sens des avancées de civilisation.
Alors, il y a un autre argument de l'extrême droite qui semble porter, on peut le déplorer, et au moment de leur avis, on le déplore, sans s'en cacher, mais c'est des arguments qui portent. L'extrême droite, Marine Le Pen, dit, ils ont tous été au pouvoir, ils ont tous fait grosso modo la même politique. Nous, on va faire différemment. On est la seule alternative. Est-ce que là, il n'y a pas une difficulté pour le Parti communiste, même au sein d'un nouveau front de gauche, d'apparaître comme une force nouvelle, de faire comprendre aux électeurs qu'il y a un nouveau projet, d'autres choses peuvent être faites. Le Parti communiste a été associé à des gouvernements de gauche qui ont déçu.
Vous dites, en reprenant les propos...
J'essaie de vous faire réagir.
les propos du Front National, vous avez essayé ceci, vous avez essayé cela, essayez-moi, quoi. Hein. Voilà. On est encore dans une démarche de délégation de pouvoir. Encore. Et aussi longtemps qu'on sera dans cette démarche-là, on ne réglera pas les problèmes ni du pays, ni de la France, ni de l'Europe, ni du monde. Voilà. Ce que nous disons, ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de cette logique de délégation du pouvoir. Moi, je crois au peuple. Je crois en leur capacité d'échanger les choses. Ils peuvent les changer bien, ils peuvent les changer mal. Mais il dépendra qu'ils les changent bien du niveau de connaissances et d'informations qu'on leur donnera. Il faut partager, il faut la transparence, il faut la démocratie, et ils y arriveront à faire évoluer que dans la mesure où on les fera se prononcer sur le fond des problèmes qui nous sont posés.
Alors le fond des problèmes, ils le vivent dans cette région, particulièrement dans ce département, dans leur chair. Alors, une liste, elle parle d'elle-même. Le conflit des retraites, ça c'était au niveau national, également au niveau départemental et au local. La SNCM, Fralib, Netcacao, les problèmes de la sidérurgie de Fos-sur-Mer, les gens l'ont vécu dans leur chair. Et malgré tout, c'est quand même le Front National qui est leur choix.
Je ne suis pas sûr que ceux qui l'ont vécu se sont prononcés pour le Front National.
Ils se sont abstenus peut-être.
Si, pardon.
Certains se sont abstenus.
Possible. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ceux qui ont vécu, je ne suis même sûr du contraire. Pour les connaître, les uns et les autres, je sais quelle est leur posture politique, leur choix idéologique. Mais on est sur de vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? Les retraites. On nous dit, on ne peut pas faire autrement. Nous disons, on peut faire autrement. Regardons comment la richesse créée par le travail est redistribuée. la richesse créée par le travail est aujourd'hui de plus en plus vers le financement du capital et de moins en moins vers le financement du travail. Et cette logique-là est meurtrière pour un système de protection sociale comme celui que nous connaissions jusqu'à présent en France et qui, malheureusement, va être bousculé. Pourquoi ? Ben parce que cette richesse créée par le travail, on ne veut pas la retourner... créée par le travail, on la redistribue formelle. Et la question est de savoir si on va continuer dans cette logique-là, où ces gains de productivité considérables, ça se chiffre par des milliards, vont être détournés de leur restitution à l'intérêt général et à l'intérêt de chacun de nos concitoyens pour servir les logiques de concurrence à l'international des grands groupes qui, eux, n'ont pas de patrie, vont se délocaliser, ils s'en foutent pourvu qu'ils fassent augmenter les profits. C'est ce qui se passe. Vous avez vu, parce que vous êtes des journalistes responsables, les évolutions du CAC 40. Vous avez vu que la crise, elle n'est pas pour tout le monde. Même dans la pire des périodes, même en 2009, et en tout cas en 2010, encore plus nettement, tous ceux qui ont conduit à la crise se trouvent maintenant complètement à flot, et non seulement à flot, mais réalisent des bénéfices considérables. Et sur les profits réalisés, 100 de profits, 50 vont à la rémunération des dividendes. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. C'est sur cela que nous voulons nous battre et apporter des explications. Mais pour ça, il faut donner toutes les informations aux Françaises et aux Français. Malheureusement, ces informations ne sont pas données. Elles sont même travesties, elles sont usurpées. Et pour reprendre ce que vous disiez concernant le Front National, effectivement, elles jouent, elles surfent sur la délégation de pouvoir à donner, c'est-à-dire sur l'idée de l'homme ou de la formation providentielle. Il n'y en a pas. Ce sont les peuples qui font l'histoire, aidons-les à la faire dans la bonne direction.
Michel, c'est quand même cette histoire de délégation. Malgré tout, on a des institutions, malgré tout, il y a des députés, vous en êtes, il y a une Assemblée nationale qui est un petit peu fantoche, mais enfin, elle existe, il faudrait peut-être qu'elle soit moins fantoche. Donc, il faut bien élire des élus. On a vu un mouvement social très important, assez historique, très long, des millions de gens dans la rue, et on a vu un mur face à eux, donc la nécessité, pas de réponse politique. Donc il y a bien nécessité d'apporter une alternance, une alternative politique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens qui étaient dans la rue, qui ont manifesté en vain, qui n'ont pas été entendus, le soient? Il y a des présidentielles, il y a des législatives. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites le système politique ne fonctionne plus, il ne faut pas déléguer votre pouvoir. Aller dans la rue, mais ça ne suffit pas.
Je leur dis les limites d'un système de représentation. Les limites. Je ne leur dis pas qu'il ne faut pas conjuguer démocratie représentative et démocratie participative. Mais je leur dis la dimension de la démocratie représentative, celle qui garantit que les engagements pris seront tenus parce qu'ils seront soumis à la vigilance d'une majorité de notre peuple rassemblé, puissent exister. Et pour ça, il faut de la démocratie participative. Pour cela, il faut que les citoyennes et les citoyens de ce pays soient associés à la réflexion et à la décision dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la vie sociale, que ce soit les domaines du développement économique. Quand donnera-t-on des pouvoirs aux travailleurs dans les entreprises? Quand donnera-t-on des pouvoirs aux parents d'élèves et aux enseignants dans le système éducatif? Quand donnera-t-on des pouvoirs aux...
Michel Baxès, ça existe déjà, plus ou moins. Vous avez les syndicats qui représentent les gens. Dans l'éducation nationale.
On est encore dans la représentation. Moi, ce que je dis, c'est que seulement le rassemblement populaire va faire que des majorités d'idées vont être défendues et portées par ce mouvement populaire. Moi, j'ai toujours demandé à ceux qui m'ont fait confiance d'être vigilants, d'être attentifs à ce que je propose et ce que je fais. Et mais j'ai pas eu besoin de le faire beaucoup, tout simplement parce que je l'ai fait avec eux. Voilà. Lorsque nos concitoyens, lorsque les Françaises et les Français, pour ce qui concerne notre pays, mais les citoyens du monde d'une façon générale, sont associés à la réflexion et à la décision, mais associés vraiment et partie prenante et acteurs des évolutions nécessaires, à ce moment-là, ils sont aussi vigilants.
Vous êtes...
Écoutez, regardez, excusez-moi, oui. Deux secondes, mais regardez la campagne des élections présidentielles de 2007, les promesses de Nicolas Sarkozy de résoudre tous les problèmes et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, les mensonges au moment de l'élection et ensuite la réalité des faits et des décisions prises qui vont à l'inverse des engagements qui ont été pris à ce moment-là.
Le Parti communiste, Michel Houellebecq, l'appareil Parti communiste avec un nouveau premier secrétaire est sur votre ligne de conduite.
Écoutez.
Parce qu'à un moment donné, on reprochait avec différents leaders, Marie-Georges Buffet également, Robert Rue avant elle, on reprochait un manque de radicalité à ce parti communiste qui était devenu un parti d'évolution à force d'alliance avec le parti socialiste. Parce que votre position est plutôt radicale.
Ma position est radicale, oui, elle est radicale, puisqu'elle prône une inversion des logiques de fonctionnement de la société dans le domaine économique comme dans d'autres domaines. Alors, est-ce que le parti... Vous m'avez posé plusieurs questions. Mmh. Vous m'avez parlé de du secrétaire fédéral, Pierre Darville, de la fédération, si j'ai bien entendu, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et dont j'ai la conviction d'une promesse de qualité et d'efficacité pour les années qui viennent. En même temps, on ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup et il faut que les évolutions se fassent dans tous les domaines. J'ai effectivement... par rapport aux prises de position, parce que je ne confonds jamais les organisations et les idéaux, l'Église et la foi. Ce sont deux choses qui peuvent converger, mais quelquefois qui peuvent diverger. Ce que je crois, c'est que plus vite le Parti communiste avancera dans la conscience que c'est les rassemblements populaires qui devront prendre le dessus par rapport aux alliances, et mieux ce sera. Voilà. Je pense que ce que je dis pour la société vaut aussi pour les formations politiques, et y compris la formation à laquelle j'appartiens n'y échappe pas. Je ne crois pas beaucoup aux alliances, qu'elles soient nécessaires à des moments électoraux. Oui, mais je crois surtout au rassemblement, et pas au rassemblement derrière des bannières de parti, mais au rassemblement sur des contenus, sur des orientations, des rassemblements pour défendre le service public, mais politiquement, pas seulement du point de vue revendicatif et syndical.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi aujourd'hui avec le député Michel Houellebecq, député communiste. Michel Guéraud.
À vous entendre, on a presque l'impression que vous dites finalement 13 députés, 40 députés Front de Gauche, ou 13 aujourd'hui, 40 demain, ou, ça n'a presque pas d'importance. Est-ce que c'est très mobilisateur?
Vous m'entendez mal. Vous m'entendez mal, mais je vais...
Vous dites la démocratie représentative et
ben oui, mais je vais vous rappeler un point d'histoire. Mmh. Mmh. 1941, la libération. Le Parti communiste en France, ses idées, représentait à peu près 5 millions d'électeurs. C'était la première formation politique française, la plus importante, numériquement, et y compris en termes de voix. Ça s'est quand même traduit par de minces transformations. La nationalisation des banques, la sécurité sociale, une augmentation considérable du pouvoir d'achat par les salaires, là, dans un pays exsangue, qu'il fallait reconstruire. Si on prend les acquis du programme du Conseil national de la Résistance, auquel nous avons fortement contribué, on voit bien qu'il n'est pas innocent d'avoir un parti communiste qui représente 5 millions de voix à l'époque, c'était à peu près sur 15 millions, en gros, hein, je prends des raccourcis, c'était un peu plus du tiers, il représentait, voilà les avancées que nous avons eues. Mais on n'a plus eu une situation de ce type-là. D'accord. La conscience viendra de cette nécessité à nouveau, mais dès l'instant où nous parlerons de ce qui est l'essentiel. D'accord. Et non pas de posture politicienne.
Pour autant, vous êtes un homme politique aguerri, vous connaissez bien les institutions de la Ve République, même si vous, vous souhaiteriez les faire évoluer, et vous savez très bien que la bataille des présidentielles est déterminante pour exister politiquement, pour avoir des élus à l'Assemblée nationale, et vous savez bien que le fait d'avoir un candidat ou ne pas en avoir peut être déterminant dans la visibilité politique d'un parti comme le vôtre. En clair, il y a un enjeu. En avril, il y a un Conseil national du Parti communiste qui se réunit et qui va devoir émettre une préférence pour la candidature du Front de gauche dans ce rendez-vous qui s'approche. Mmh. Alors est-ce là, que c'est... tous ces débats-là, vous pouvez les balayer d'un revers de la main ?
Là, d'ailleurs, est-ce que c'est
Mélenchon,
une alliance...
pas Mélenchon ?
Est-ce que c'est une alliance ou un rassemblement ?
Écoutez, d'abord, sur les institutions de la République, vous avez évoqué cette question. Je suis hostile à la présidentialisation et je n'ai jamais été, ni moi, ni mon parti d'ailleurs, ni le parti auquel j'appartiens, n'a été favorable à une élection au suffrage direct du président de la République, parce qu'il nous avions dit à l'époque qu'il dessaisirait le peuple et ses représentations, le Parlement, de ses prérogatives. C'est ce qui est en train de se faire avec la personnalisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. Plus vite on en sortira, et il faut une sixième République. Il faut une constituante qui propose autre chose que l'élection qui conduit à la personnalisation des pouvoirs, parce que la personnalisation des pouvoirs nourrit précisément le réflexe des
légataires. Alors, soyons francs, est-ce qu'un Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça va être un boulet à traîner dans cette rénovation à laquelle vous appelez avec force ? Est-ce que c'est un boulet, une personnalité comme la sienne, qui attire la lumière des médias et à laquelle ont envie certains militants de se raccrocher? Enfin, il y a des militants du Front de gauche qui disent « Ben oui, là, on a le bon cheval, il faut y aller. »
En même temps, il est en concurrence, il faut rappeler pour les auditeurs, avec André Chassaigne, qui, lui, député communiste, j'allais dire, pur jus.
Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne présentation des choses. Je vais vous redire ce que vous faites semblant, mais vous jouez votre rôle de journaliste polémique, et c'est normal. Ce que... vous faites semblant de ne pas entendre. Je vous redis que la question essentielle, elle n'est pas à ce niveau. Donc pour moi, elle n'est pas à ce niveau. Ce qui me paraît important, c'est quel programme partager avec les citoyens. Pas partager au sommet. On a connu ça, programme commun. Encore une initiative du type délégataire. Non, le programme partagé par les citoyennes et par les citoyens. Est-ce qu'on va arriver, en tout cas c'est ce à quoi je m'emploie, pour faire se prononcer les citoyennes et les citoyennes de ce pays sur des contenus de transformation sociale.
On a compris aussi reste... que vous ne voulez pas nous dire aujourd'hui si Mélenchon vous semble être le bon candidat.
Mais je vous dis, la question des présidentielles
le deuxième week-end d'avril, la question va se poser pour le Parti communiste. Est-ce qu'ils vont choisir quelqu'un pour mener ce débat de fond qui est interroger le peuple sur ses attentes, etc., etc., ou pas?
Mais ce débat de fond, André Chassaigne le mène depuis plusieurs mois. Lui, il mène le débat de fond.
Ah.
Il est partout. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera candidat. J'en sais rien.
Si, il l'a dit. Mais,
en tout cas, le débat de fond, il mène partout. Et il le mène pourquoi ? Pour faire réaliser des prises de conscience que l'essentiel est dans les contenus de transformation que l'on propose. Ça me paraît tout ce qui grandira dans cette perspective-là, de faire partager à un maximum de monde possible que, par exemple, le service public et le service de l'égalité des droits, qu'il faut le défendre, qu'il ne faut pas le laisser attaquer, que la question de la répartition des richesses est une question fondamentale, que les richesses créées par les travailleurs ne doivent pas leur être enlevées, enfin en tout cas pas être détournées d'un retour répondant à l'intérêt général. Ce débat de fond là, pour un hôpital, pour une justice indépendante, regardez comme elle est malmenée aujourd'hui par le pouvoir, ce débat, il faut l'avoir. Il se cristallisera sur un nom, mais à la condition qu'on ne se trompe pas.
C'est-à-dire ?
Il se cristallisera sur un nom, je ne sais pas.
On se trompe ce pas que juin, par rapport à quoi ?
Mais en juin, les formations associées dans le Front de gauche se prononceront pour une candidature. Bon, peu importe la candidature.
Là, c'est vraiment le mois de juin quand même, c'est le deuxième week-end d'avril. Hein.
Le deuxième week-end d'avril, voilà. Vous voyez comme quoi le problème de la désignation, c'est pas ce qui m'agite et me préoccupe prioritairement. Ce qui me préoccupe prioritairement, c'est que le contenu. Lorsque on aura les électrices et les électeurs auront à se prononcer, je souhaite qu'ils le fassent sur les contenus qui seront proposés.
Qui choisira ces contenus? Parce que c'est
en train de se faire ça.
Non, Michel Vaxès, pour les auditeurs, c'est quand même très compliqué parce que vous avez d'un côté Pierre Laurent, qui est le patron des communistes, nouveau premier secrétaire. Vous avez d'un côté Mélenchon, qui est lui plus pour la forme. Qui ne diverge pas d'ailleurs de vos analyses. Vous avez un candidat, André Chassaigne, qui est lui pour le fond, entièrement pour le fond, qui fait un travail de fond depuis plusieurs années. Qui va décider de ce contenu? Est-ce que c'est Pierre Laurent? Est-ce que c'est un brainstorming général avec Mélenchon, la base qui exactement?
Je souhaite que ce soit dans l'échange avec nos concitoyens que ce fond soit repréciser, en sachant qu'on ne part pas de rien. Par exemple, l'attachement, je le disais tout à l'heure, au service public, fait partie de ce fonds. Est-ce que, oui ou non, nous avons besoin d'un service public en France? Est-ce que nous avons besoin de rendre, par exemple, l'eau, de la sortir du domaine de la propriété privée? Est-ce que c'est un bien commun? Ce sont ces questions. Est-ce que nous avons besoin de l'indépendance des pouvoirs, du pouvoir juridique? Est-ce que nous avons besoin d'une assemblée qui joue pleinement son rôle de pouvoir législatif contre pouvoir du pouvoir exécutif? Est-ce que nous avons besoin de cela? Si nous avons besoin de cela, c'est sur cela que nous appellerons à se prononcer. Alors ensuite, peu importe la personne, mais je vous l'ai dit, on est dans une logique que je ne partage pas, celle de l'élection du sauveur suprême, là, le président de la République, quel qu'il soit, il ne sera jamais un sauveur suprême. Voilà. Donc, voilà, moi, je pense avoir dit clairement ce qui me paraissait essentiel. Vous ne m'entraînerez pas à me prononcer sur les castings. Les castings, ça ne m'intéresse pas. La position de Pierre Laurent sur les contenus, comme celle d'André Chassaigne sur les contenus, se ressemble beaucoup quand même. Hein.
Mais voilà. Ces contenus ne vont pas varier
Pourquoi voulez-vous qu'ils varient? Ce sont des questions fondamentales.
Il y a toujours une logique de deuxième tour, il y a toujours une logique d'alliance avec le Parti Socialiste. Quel rôle vont jouer les socialistes?
Attendez, confondez
pas. Est-ce que vous allez pouvoir avoir une vraie radicalité dans votre programme, ou est-ce que vous allez dire...
Mais la vraie radicalité est liée, lorsque je vous dis, et je ne vous dis pas seul, c'est la position aussi du Parti communiste, de la nécessité d'une inversion des logiques à l'œuvre dans notre société. Elle est là, la radicalité. La radicalité, elle est celle qui consiste à dire les logiques capitalistes nous conduisent au mur, il faut en changer, il faut inverser la situation, il faut que l'économie réponde aux besoins des hommes et non pas des hommes asservis à l'économie. Elle est là, la radicalité. Ensuite, elle se décline dans un certain nombre de secteurs particuliers, mais c'est la même radicalité, celle de la démocratie, par exemple.
Michel Vaxès, quand même, une question là-dessus, sur le même thème.
Celle de la démocratie est importante.
Vous savez très bien que sur votre gauche, des mouvements qui sont fédérés autour du NPA, Besancenot, disent le Parti communiste, c'est la radicalité dans le discours, et ensuite, parce qu'ils vivent, ils ont besoin, ils ont des élus dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, parce qu'ils veulent participer au gouvernement avec le Parti socialiste, ils sont obligés de faire des compromis qui les amènent à renoncer à leurs valeurs. Ce discours-là, vous pensez, vous répondez quoi à ça?
Je réponds qu'il ne faut pas faire des concessions sur les valeurs, ni aujourd'hui, ni demain.
Et comment c'est possible avec un PS qui pourrait, par exemple, être représenté par un Strauss-Kahn, c'est-à-dire une ligne quand même très sociale-libérale?
Oui, mais qui vous dit que je
soutiendrai... C'est presque sursauté, là.
Qui vous dit que je soutiendrai des propositions qui vont à l'inverse de ce que je viens de vous dire? Je ne les soutiendrai pas. Point, c'est tout. Si on me dit que demain il faut continuer avec la T2A dans les hôpitaux, je dirais non. Si on me dit que demain les décisions qui ont été prises par la pour les retraites hier doivent se poursuivre parce qu'on peut pas faire autrement, je dirais non.
Oui.
C'est clair.
Mais par contre, le Parti communiste dit oui à un Jean-Noël Guérini qui pourtant mène une politique sociale au niveau du RSA qui semble aux yeux de certains communistes pas forcément idéale. Le Parti communiste est allié avec Michel Vauzel qui ne partage pas toutes vos valeurs. Donc il y a quand même un compromis à un moment. Peut-être que ce compromis, il faut le faire, je ne dis pas le contraire.
Ensuite, il faut regarder les politiques qui sont conduites. Moi, lorsque j'étais maire, j'avais un conseil municipal qui était à majorité dirigé par les communistes.
J'étais maire de Port-de-Bouc, hein, pour les auditeurs.
Oui, maire de Port-de-Bouc, pendant 3 mandats. Et donc, une municipalité d'union. Mais c'est pas, les gens ne se prononçaient pas par rapport à la municipalité d'union ou pas d'union, ils se prononçaient par rapport aux réalisations et au travail que nous faisions avec eux. Voilà. Donc il faut bien distinguer ce qui relève de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. De ce point de vue, le Conseil général, dans le domaine social, a des politiques. Je parle des politiques, je ne parle pas des gens, je ne parle pas des personnes, je parle des politiques. J'en reviens à ma question de fond. Si ces politiques vont dans le sens de l'intérêt des gens, il faut les soutenir.
Mais je rappelle quand même que le Conseil général, c'est 60%, 60% pour le social. En gros, c'est 2,3 milliards d'euros en 2010 pour l'action sociale, le Conseil général.
C'est important quand même, non ? C'est important. Enfin, je veux dire, en proportion, c'est important.
Bah oui, 60%, voilà. Oui.
Et si l'État jouait complètement son rôle, il pourrait encore mieux répondre à l'attente sociale des hommes et des femmes de ce pays. Mais je regarde sur les politiques scolaires, par exemple, l'évolution de la qualité de notre infrastructure en matière de collège pour le Conseil général ou de lycée pour le Conseil régional. Les choses sont allées dans le bon sens.
Finalement, c'est la taille de la cuillère qui fait que vous pouvez déjeuner avec n'importe qui, quoi.
Ah non, mais ne dites pas ça. Je suis en train de vous expliquer le contraire. Ne me dites pas ça. Moi, je dis que pour ce qui compte... Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais s'ils vont au lycée, vous êtes quand même plus satisfait si c'est un lycée qui a été rénové, réhabilité, qui les accueille dans de bonnes conditions, non ? Ou si vous avez un éloignement et qu'on crée un lycée nouveau, vous allez être satisfait pour vos enfants. Moi aussi, voilà. Et moi, c'est sur ce quoi je me prononce. Et j'observe que de ce point de vue, mais du point de vue des réalisations... Du point de vue des réalisations, j'observe que des politiques mises en œuvre vont dans la bonne direction. Je soutiens les politiques qui vont dans la bonne direction. Et si certaines politiques ne vont pas dans la bonne direction, je ne les soutiendrai pas. C'est clair. C'est clair. Ne les soutiendrai pas.
Là aussi, c'est une position qui est faite de nuances et qui est difficile à faire comprendre peut-être. La position du NPA est plus simple. Elle est assez les méchants d'un côté, les gentils de l'autre.
Même si elle mène à une impasse.
On se salit pas les mains. Oui. Là, la position du Parti communiste est difficile. Elle est difficile à la fois dire il faut tout changer, les logiques, les renverser, et en même temps co-gérer des institutions, donc faire des compromis pour faire avancer certains dossiers, c'est difficile à faire passer ce genre de discours.
Ce fut un temps, on disait, dans un domaine que je connais un peu mieux, qu'il n'y aurait d'évolution de la qualité de l'enseignement que lorsqu'on aura refondé l'ensemble du programme et des systèmes d'enseignement. Voilà. Je pensais qu'il fallait refonder un certain nombre de choses. Mais en même temps, l'absence de cette refonte ne me dispensait pas de me battre sur des évolutions possibles. Voilà. Moi, je ne crois pas... c'est facile. C'est facile pour ceux qui choisissent la posture de ne pas s'engager dans la réalisation concrète d'un certain nombre de projets politiques. Si on se tient éloigné de la charge institutionnelle, c'est sûr que c'est facile de dire « faut que, y a qu'à ». Ça, c'est très simple. Lorsqu'on est en charge de la responsabilité de mettre en œuvre des programmes, il faut, à ce moment-là, non pas, on ne peut pas se réfugier dans « puisqu'on ne change pas tout, on ne change rien ». Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les gens, lorsqu'on leur explique, ils le comprennent très bien. C'est pas tout ou rien. C'est Voilà notre orientation. Dans un rapport de force politique, une avancée est possible, je la soutiens. Si un recul se profile, je le combats. C'est cela ma position. Et je crois qu'elle est simple à comprendre. Il ne faut pas la compliquer en essayant d'introduire à tout prix, vous le faites un peu, je vous le dis gentiment, en essayant, mais je comprends parce que c'est dans l'ambiance politique, à tout prix, à vouloir renvoyer dans des postures de positionnement des politiciens entre eux,
Restons un peu dans les affaires, puisqu'on y est, on est au niveau du département. Les communistes, comme l'a dit Michel Guéraud tout à l'heure, ne se sont pas distanciés, en tout cas, de celui qui gère aujourd'hui le Conseil général, Jean-Noël Guérini. Les affaires ont même touché les communistes, puisque cette affaire de marché public des Bouches-du-Rhône, la ville communiste d'Aubagne a été touchée. Le président communiste Alain Belvisio a dû démissionner de la communauté d'Aglo. Finalement, on revient à la première question.
Vous revenez à une personnalisation des problèmes et non pas au débat sur le fond des questions politiques.
Oui, non.
Voilà. Alors ensuite, s'il y a des affaires, je pense que vous me connaissez, même si Marseille est plus loin que...
Enfin, le président du Conseil général gère tout le département.
Mais,
hein,
oui, c'est pas ce que je dis. Je suis pour l'honnêteté la plus
dans
nette.
Et dans ce sens, qu'est-ce que vous dites aux camarades d'Aubagne qui sont partis un petit peu
D'abord, il faut que la justice passe. Et je sais pas ce que la justice va dire.
Elle est déjà passée une première fois.
Et je ne me substituerai pas à elle. Qu'est-ce que c'est qui est passé ? Attention, il y a les présomptions d'innocence. Pour moi, il ne faut pas y toucher. Hein. Mmh. Voilà, la justice n'a pour l'instant condamné personne. Si elle condamne, elle condamne. Ça, c'est s'il y a eu, mais s'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Ça, je n'en sais rien et je ne me substituerai jamais à la justice et à ses décisions. Je la respecte trop et je suis trop jaloux de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. Donc je ne me prononcerai pas sur des affaires en cours. On verra, la justice dira. S'il y a des fautes à sanctionner, elle les sanctionnera. S'il n'y en a pas à sanctionner, je pense que il faudra que tout le monde à ce moment-là reconnaisse qu'il n'y en avait pas à sanctionner. Voilà. Et je ne me mêlerai pas de ce débat de personnes ou de comportements d'un tel ou d'un tel. Moi, je veux regarder ce que la politique, soit gouvernementale, enfin les politiques...
Vous comprenez quand même que les électeurs, eux, regardent.
Mais ils ont raison de regarder.
Forcément.
Mais ils ont raison de regarder. Mais de les polariser sur ce seul choix serait, à mon avis, dramatique de conséquences. Parce que ça veut dire qu'ils ne regarderaient plus ce qui se fait, mais qui a fait quoi ? Et ça, c'est une autre question. Deux mots quand même, puisque nous, sur quoi on se prononce ? Moi, depuis le début des années 80, dans l'exercice de mes responsabilités exécutives, j'ai été amené à mettre en œuvre les politiques de la ville. Je me suis réjoui que l'Europe, l'État, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, le Conseil général, le Conseil régional, aient abondé les politiques de requalification urbaine que j'avais initiées et pour lesquelles je n'avais pas de proposition alternative par d'autres forces politiques. Eh bien, ces politiques-là, vous voulez que voulez-vous que je vous dise, sinon que je les approuve et qu'il faut qu'elles continuent. Mais ceux qui le mettent en cause aujourd'hui, ce n'est ni le Conseil général, ni le Conseil régional, c'est une orientation politique qui est en train de désosser la politique de la ville, de la réduire à pratiquement pas grand-chose, c'est-à-dire à priver les quartiers qui en ont le plus besoin de la discrimination positive qui jusqu'à présent leur a porté un peu pour les sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent.
On comprend que vous n'avez pas envie de vous prononcer sur le fait que Jean-Noël Guérini est la bonne personne ou pas pour présider le Conseil général. En même temps, dans une élection cantonale, dans une actualité de ce type-là, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, est-ce que ça a une conséquence ? On voit par exemple à Europe Écologie, une Laurence Vineschi dire bah, Jean-Noël Guérini doit passer le relais. Et vous savez bien qu'il y a l'affaire de justice, mais il y a aussi l'affaire interne au PS, le rapport Montebourg. Mais il y a des accusations. Est-ce que vous pensez que
je
le front de gauche
peux
ne peut pas,
pas penser.
Michel Baxès, vous êtes considéré, honnêtement, pour les auditeurs, vous êtes député communiste, vous êtes considéré plutôt comme un sage, quelqu'un qui ne se mêle pas, qui voit les choses un petit peu dans leur ensemble. Donc c'est normal qu'on vous demande votre point de vue, qui n'est pas le point de vue de n'importe qui. Donc,
oui, mais que vous me demandiez mon point de vue,
oui.
Que je vous le donne, comme je l'ai fait depuis le début de cette émission.
Vous avez été alambiqué.
Et que... Mais non, c'est pas
sur les affaires,
pas moi
vous avez été alambiqué.
C'est vous qui êtes alambiqué. Parce que je vous dis encore une fois, c'est vous dans votre questionnement. Et j'en fais pas une affaire d'affrontement entre vos postures et les vôtres, vous jouez votre rôle. D'ailleurs, je souhaiterais que le rôle des journalistes évolue. Enfin, ça c'est une autre question, on va pas l'aborder dans ce débat. Je vous ai répondu à cette question que ce qui me détermine, c'est le contenu des actions mises en œuvre et de savoir si elles répondent à l'intérêt général et à l'intérêt des populations qui nous ont fait confiance à un moment donné. C'est ce qui, pour moi, est l'essentiel.
Donc le bilan Guérini est bon et donc...
Le reste.
Ça, c'est une question directe.
Les orientations politiques qui ont été mises en œuvre, j'ai pris l'exemple de la politique de la ville, me paraissent intéressantes. Est-ce qu'elles sont suffisantes? On peut toujours discuter. Faut-il aller un peu plus loin ou moins loin? Ça, on peut toujours discuter. Mais ces orientations qui ont accompagné la rénovation urbaine, qui ont accompagné l'amélioration des conditions d'accueil des enfants dans les collèges, pour prendre l'exemple des collèges, qui ont abondé les politiques d'aide sociale aux familles en difficulté, vont, de mon point de vue, dans le bon sens. C'est là-dessus que je me prononce. Voilà. Et je ne me prononcerai pas sur les personnes qui les portent, parce que ce sont des rapports de force qui les portent. Et un rapport de force en faveur de forces hostiles au système actuel et aux orientations de la politique sarkozienne, écoutez, elles ont mon soutien.
Un dossier de fond sur lequel, lié à une actualité dramatique auquel on souhaitait vous faire réagir, c'est la question du nucléaire. Il y a eu un drame au Japon, tsunami, catastrophe nucléaire. Il y a un débat qui s'engage en France. Le Parti communiste, d'ailleurs, souhaite lancer une grande initiative pour débattre de la politique énergétique en France. Là-dessus, le Parti communiste a l'image d'un nucléocrate, d'un mouvement qui a toujours été très favorable à l'énergie nucléaire. Est-ce que ça change? Est-ce qu'il faut que ça change?
Je pense, quand vous dites le Parti communiste, il n'a pas été le seul. Hein.
Ah non, ah non on parle du...
Toutes les formations politiques au moment de l'initiative du général de Gaulle de mettre en œuvre le développement de l'énergie nucléaire, toutes les formations, je dis bien toutes les formations, ont été favorables
à cette
évolution.
Plus proche de nous, quand même, avec ITER et la région, les communistes ont été spontanément avec Michel Bozel dès le départ pour la création et le financement d'une partie d'ITER.
Il ne vous a pas échappé, et j'espère qu'il n'a pas échappé à vos éditeurs, que ITER n'est entre fusion et fission.
C'est un autre débat. Est-ce que c'est de l'énergie propre ou pas?
C'est un autre débat.
C'est du nucléaire quand même.
Je ne me substituerai pas. Oui, non, mais attendez, c'est peut-être du nucléaire, mais lorsque vous passez une radio, quand vous allez chez votre médecin ou un scanner, c'est aussi du nucléaire. Hein. Donc attention de clarifier
très vite,
ce débat-là.
Très très vite, alors, PC nucléocrate.
Moi, je pense qu'il faut un débat public. Un grand débat public, transparent, qui associe les chercheurs dans ce domaine-là, qui associe les usagers, qui associe les élus, qui associe tout ce qui représente la communauté nationale pour une réflexion qui ne peut pas être un raccourci dans une position manichéenne qui dirait oui ou non à ceci ou à cela. Parce que l'affaire est compliquée. Tous ceux qui se prévalent d'une position radicale, n'ont pas encore tout à fait bien dit, ou en tout cas démontré, qu'il était possible de faire complètement différemment et de se priver tout à fait d'une source d'énergie. Alors ce que nous disons, parce que les énergies fossiles, elles sont aussi... elles provoquent aussi source des pollutions, etc. Gaz à effet de serre, voilà. Donc, il faut mettre tout ça sur la table. Il faut réfléchir aux meilleurs équilibres à obtenir. Et si un mouvement devait être s'avérer possible pour une évolution dans ces équilibres-là entre les différentes énergies,
même si ça se fait au détriment de l'emploi,
de toute façon, même ceux qui sont les anti-nucléaires disent on en a au moins pour 30 ans. Voyons déjà, tout de suite, quels sont les équilibres qu'il est possible d'atteindre. Je ne crois pas personnellement aux positions radicales parce que l'affaire est compliquée. Et donc j'ai besoin de savoir, moi aussi, j'ai besoin de savoir quels équilibres on va créer. Ce que je crois, c'est que il y a des besoins d'énergie qu'on a créés artificiellement à partir de l'instant où les logiques économiques en œuvre créent des besoins artificiels. Avons-nous besoin de trois voitures
Mais à terme, vous êtes après les discussions avec toutes les personnes concernées et les autres d'ailleurs, on est tous concernés par le nucléaire, à terme vous êtes pour une sortie du nucléaire ou
Je suis pour la recherche de la solution la plus consensuelle, et la plus consensuelle et celle qui répond de mieux à l'intérêt de l'ensemble des usagers, c'est-à-dire l'ensemble des populations concernées. Parce que...
une forme de nucléaire durable, c'est ça ?
Je trouve quand même curieux... Non, mais attendez. On a la catastrophe au Japon. Et la moindre des choses, c'est d'abord de penser aux victimes. C'est une catastrophe naturelle.
Naturelle, c'est-à-dire
le tsunami, oui.
C'est
le tsunami, oui.
Un séisme, c'est un tsunami...
Ça aurait été une centrale thermique, on n'en parlerait plus là, l'heure qu'il est là.
Peut-être.
Oui.
Mais n'inversons pas l'ordre des choses. Voilà. C'est d'abord ça. Et c'est ensuite un effet de domino, un effet induit, le problème de la centrale, qui révèle que cette centrale n'était pas sûre, qui révèle que peut-être elle était mal positionnée, j'en sais rien, qui révèle en tout cas que les moyens de la garantir et contre le séisme et contre les tsunamis n'étaient pas pris. Voilà. Alors la première des choses à faire, c'est de vérifier chez nous que toutes les précautions ont été prises. Mais là, on va se heurter encore à une logique. C'est la logique de l'économie. Et nous, ce que nous disons, c'est le meilleur rapport à l'intérêt des gens. Pas le rapport sécurité-coût. Parce que lorsqu'on est dans la... Comme Rousselin l'a dit, on est dans la logique économie coûte... Eh oui, mais de l'argent, il y en a. Il y en a pour rémunérer ceux qui ont déjà plein les poches.
On a compris que vous êtes plutôt dans le consensus et dans le dialogue, on va dire.
Dans la recherche du dialogue. D'une solution consensuelle.
Je vous demanderai vraiment une réponse par oui ou par non. Ce sera une des seules de cette émission qui a duré une heure.
Vous aurez peut-être difficulté à l'obtenir.
2012, c'est les législatives.
Oui.
Vous allez vous représenter ou vous allez laisser votre place comme vous l'avez fait à la mairie et au Conseil Général ?
Je vais laisser ma place comme je l'ai fait à la mairie et au Conseil Général. Je suis fidèle à mes convictions politiques. Je ne m'accroche à aucun mandat. Et lorsque je considère que le moment est venu de laisser la place à des plus jeunes que moi, je le fais volontiers. Je ne l'ai pas regretté pour le Conseil Général. Je ne l'ai pas regretté pour la passation de la responsabilité de maire. Et je ne le regretterai pas pour ce qui concerne les élections législatives.
C'est ce que disait donc Michel Guéraud, une denrée rare, une personne rare, un député communiste et qui en plus laisse sa place alors qu'elle est largement gagnable. Allez, je vous remercie, on se retrouve le mois prochain, bye.